Hélène Philippe pour le journal. Bonsoir Hélène.
Bonsoir à tous. Le gel des prix du gaz pour 5 millions de foyers supplémentaires. Les oubliés du bouclier tarifaire. Soulagement ce soir pour les locataires modestes des HLM. L'Ukraine face à la Russie. Son président n'a pas peur, dit-il, et va se défendre. Il célébrait aujourd'hui une journée de l'unité alors que Paris voit toujours autant de forces russes à la frontière. Dans l'actualité, encore le retrait forcé du Mali. Sentiment de gâchis dans les mots de l'ancien ministre Jean-Marie Bockel qui a perdu un fils au combat. Un jeune, une solution, le plan massif du gouvernement a-t-il aidé ceux qui en avaient le plus besoin? De plus en plus de départements tirent un trait sur le passage de la flamme olympique 2024 sur leur territoire, ça coûte trop cher. Et puis si tout va bien, on enlève le masque à l'intérieur dans un mois, la main dans le pop-corn déjà aujourd'hui au cinéma. Et au téléphone sonne Fabienne.
Eh bien ce soir, les mains moites, l'estomac noué, la gorge sèche, des tremblements, voire l'envie de vomir, prendre la parole en public, ça n'est pas inné pour beaucoup d'entre nous, c'est même la plus grande angoisse sociale. Figurez-vous, vous devinez un peu pourquoi on s'est arrêté sur ce sujet ce soir, mais figurez-vous que l'aisance en public, ça se travaille, ça s'apprend, ça se soigne, ça s'entretient. C'est comme un muscle, vous allez nous raconter vos expériences, vos blocages, vos bonheurs aussi en public au 01 45 24 7000.
France Inter. Il y avait comme un gros oubli dans le bouclier tarifaire du gouvernement sur le gaz. C'est 5 millions de Français modestes qui vivent en HLM et ceux des copropriétés en chauffage collectif. Ils ne sont pas aux tarifs réglementés et le gel des prix leur passait sous le nez. Bonsoir Claire Chaudière.
Bonsoir.
Les associations de consommateurs sont montées au créneau ces derniers jours et ça a donc porté ses fruits.
Oui, puisque le gouvernement annonce ce soir que ces ménages bénéficieront du même bouclier tarifaire que celui décidé au début de l'automne. Ils verront leur charge plafonné au niveau du tarif du gaz du 1er octobre dernier, comme pour les 11 millions de consommateurs, les 11 premiers millions de consommateurs concernés, avec donc une ristourne pour le surplus payé entre octobre et aujourd'hui. Ensuite, les tarifs resteront bloqués, premier l'exécutif, toujours sur ce fameux tarif du 1er octobre. Même dispositif qu'à l'automne, ce sont les fournisseurs qui font l'avance de trésorerie en quelque sorte. Techniquement, la mesure devrait logiquement passer par les bailleurs sociaux ou les syndics, puisque vous l'avez dit, ce sont des contrats collectifs. En tout cas, c'est donc allé relativement vite, hein, puisque les alertes ont commencé à remonter du terrain via plusieurs associations et organismes HLM il y a environ 3 semaines. Dans le logement social, on était en train de calculer les charges, hein, pour l'année à venir, basées sur les tarifs de 2021, et il y a eu de grosses montées d'angoisse, des hausses de charges imminentes de 30% dans le meilleur des cas, et allant pouvant aller jusqu'au doublement des factures. Même frayeur côté copropriété. Autant dire que cette mesure était très attendue.
Oui, on attend encore les modalités de mise en œuvre de la mesure, mais l'extension à 5 millions de ménages est bien actée et ça, c'est un vrai soulagement pour le président de la Fédération des Offices Publics de l'Habitat, Marcel Rogemont, que vous avez joint tout à l'heure, Claire.
Je salue le gouvernement pour sa réponse qui semble bien être la réponse qu'il fallait, hein, c'est-à-dire un bouclier qui s'adresse aussi à l'ensemble des locataires HLM pour des augmentations extrêmement importantes, hein, de l'ordre de 300, 400, 500 euros. Dernièrement, j'étais dans l'Est de la France pour rencontrer les organismes d'HLM et j'ai été frappé par des situations extrêmement délicates. Nous avions peur que le gouvernement ne prenne pas en compte la réalité vécue par des ménages qui ont des revenus très modestes et pour lesquels une augmentation forte du coût de l'énergie, c'est un sérieux problème.
Et puisqu'on parle tarifs, ceux des banques augmentent encore, mais plus légèrement cette année, selon les derniers chiffres de l'Observatoire des tarifs bancaires. Les prix des services en ligne, en revanche, sont globalement en baisse.
Il y a encore une forte présence russe à la frontière ukrainienne.
Ni les Américains ni les Français ne constatent vraiment le retrait annoncé hier par Moscou. Pas non plus d'offensive, cela dit, alors que la date d'aujourd'hui circulait dans les chancelleries comme celle d'une possible attaque. En réponse, l'Ukraine avait donc décidé d'en faire une journée de l'unité. Thibault Lefebvre, bonsoir.
Bonsoir Hélène.
Vous êtes l'un de nos envoyés spéciaux, Thibault, en Ukraine. Une journée célébrée un peu partout, hein, dans le pays.
Oui, 10h ce matin, l'hymne national ukrainien retentit sur toutes les places des grandes villes du pays. Un moment de ferveur et de communion nationale comme ici sur la place de l'Indépendance à Kharkiv, à seulement 25 km de la Russie. Et vous comprendrez Hélène que ça a son importance vu le contexte. Parmi la centaine de manifestants, Mikhail, 17 ans, il porte sur ses épaules le drapeau jaune et bleu de l'Ukraine.
Nous voulons montrer que Kharkiv c'est l'Ukraine et que les habitants ici s'opposent à l'occupation de la Russie.
Nous voulons vivre et rester en Ukraine.
Le jour de l'unité a été décrété seulement lundi dernier par le président Volodymyr Zelensky le 16 février et désormais férié en Ukraine.
Et côté russe, Thibault, on a réagi à cette journée plutôt par des moqueries.
Oui, les autorités américaines ont été la risée de certains officiels russes avec donc cette annonce d'une possible attaque largement relayée par des médias anglo-saxons. La palme de la réflexion la plus caustique est pour la porte-parole de la diplomatie, Maria Zakharova. Elle a demandé sur la messagerie Telegram la date de la prochaine invasion pour pouvoir, écrit-elle, planifier ses vacances. Plus tempéré, le ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, se dit perplexe. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, assure lui avoir dormi paisiblement. Pas de réponse du côté des États-Unis et de l'OTAN, mais en revanche, vous l'avez dit, de très sérieux doutes sur le retrait effectif des troupes russes. Selon le secrétaire général de l'OTAN, le Norvégien Jens Stoltenberg, des images satellites prouvent le contraire.
Thibault Lefebvre avec Jérémy Thuil, la situation en Ukraine qui fera l'objet d'une réunion informelle demain matin des 27, avant le sommet Union Européenne-Afrique, qui sera là l'occasion, sans grande surprise, d'acter le retrait forcé du Mali. La France et ses alliés poussés dehors par la junte. C'est la fin de l'opération Barkhane après 9 ans de présence. Douloureux sentiment d'inachevé pour les familles des 48 soldats français qui ont péri au Mali, 53 dans tout le Sahel, dont le fils de l'ancien ministre, aujourd'hui sénateur du Haut-Rhin, Jean-Marie Bockel. Il dit son émotion à Yael Gauz.
Je ressens évidemment une très grande peine, ça nous étreint le cœur, ça nous fait quelque chose. Notre fils, comme ses camarades, sont morts au Mali pour la France, mais aussi pour cette partie de l'Afrique que nous connaissons bien et que nous aimons. Donc c'est très très dur. On comprend cette décision. Pouvait-on faire autrement ? En effet, le départ est, hélas, inéluctable.
Vous en voulez à cette junte militaire de pousser la France à se retirer ?
C'est un sentiment de gâchis, naturellement. On ne le vit pas bien. Le sentiment vraiment d'une grande ingratitude. Pierre-Emmanuel, comme ses camarades, était persuadé de l'utilité de cette mission. Mon fils a plusieurs fois transporté un combattant ou blessé avec son hélicoptère. Nous ne partons pas comme les Américains en Afghanistan. Il va y avoir un repositionnement au Niger, dans d'autres pays du G5 Sahel, avec une capacité de projection. Donc, en quelque sorte, de continuer la mission. Ça ne s'arrête pas là. Là, nous vivons un moment de peine, de tristesse, mais quand même d'espérance.
Pierre-Emmanuel Bockel avait été tué avec 12 autres soldats dans un accident d'hélicoptère alors qu'il participait à une opération de combat contre les djihadistes. En 2019, le retrait du Mali en pleine présidence française de l'Union et à 2 mois de la présidentielle, c'est un revers pour Emmanuel Macron. Le président était à Toulouse aujourd'hui. Au nom de l'Union encore, sommet spatial. Simon Le Baron, bonsoir.
Bonsoir.
Nouvelle occasion pour le président d'envoyer des messages politiques.
Puissance, souveraineté, les prétendants à l'Élysée n'ont que ces mots à la bouche. Emmanuel Macron compris une différence pour le président. C'est grâce à l'Europe que la France doit revenir dans le match de l'espace, ce nouveau Far West, comme le dit l'un de ses conseillers.
Souveraineté des souverainetés, eh bien l'espace. Sans maîtrise de l'espace, il n'existe pas au fond de puissance complète, capable tout à la fois de maîtriser pleinement son destin et de conquérir de nouvelles frontières.
Et quoi de mieux que la conquête des étoiles pour continuer d'alimenter un discours de futur candidat qui se veut résolument optimiste.
Je pense qu'il nous faut aussi, dans ces temps où nous luttons contre les fanatismes, les égoïsmes, assumer que nous avons vocation à rêver de manière rationnelle. Visons-nous la Lune, où les Chinois retourneront prochainement, puis Mars ? Que visent les Américains ?
Des questions, des pistes de réflexion que se contente de lancer Emmanuel Macron. Le chef de l'État n'avait aucune décision à annoncer, mais plusieurs messages politiques à délivrer. Son ministre de l'économie, Bruno Le Maire, enfonce le clou après le discours. L'ADN de certains, c'est le passé. Le nôtre, c'est l'avenir. Ou comment faire de l'Europe une scène de campagne ?
Clin d'œil aussi d'Emmanuel Macron au général de Gaulle pendant le discours, qui veut cultiver une certaine idée de l'espace, comme de Gaulle avait une certaine idée de la France. À 53 jours du premier tour de l'élection présidentielle, Place Publique ne soutiendra aucun candidat de gauche, et donc pas Anne Hidalgo, France Inter vous le révélait ce midi. Et puis le chemin chaotique du Rassemblement National, Nicolas Bay, accusé d'être une taupe pour le compte d'Éric Zemmour, il annonce en retour son intention de porter plainte. Et Éric Zemmour lui verrait bien Marion Maréchal Le Pen à Matignon s'il est élu, interdit. interview au magazine Elle, apparaître demain. Et puis c'est un rassemblement qui était aussi très politique. Un collectif baptisé Stop Bolloré s'est réuni aujourd'hui à Paris, à la veille de la retraite annoncée de l'industriel. Un collectif composé de syndicats, d'associations, de médias, d'écrivains qui dénoncent la mainmise du milliardaire. Un pied dans l'industrie, un autre dans les médias. Reportage Alexandra Akoun.
La concentration version Bolloré, c'est une idéologie mortifère, martelée chaque jour dans les médias qu'il possède, estiment les signataires de cet appel, comme le fondateur de Mediapart, Edoui Plenel.
Le cas Bolloré nous montre, par son engagement idéologique autour d'un candidat raciste qui violente les droits fondamentaux, les risques que court notre démocratie en laissant faire la concentration des médias.
Dans l'édition aussi, puisqu'il s'apprête à mettre la main sur Hachette et possédera ainsi 70% des manuels scolaires. Mathilde Larère est historienne.
On est en train tout simplement d'écraser la liberté d'expression, qu'elle soit dans des livres ou qu'elle soit dans les médias.
Un danger qui nous concerne tous, ont longuement expliqué ce matin les représentants du collectif, comme l'avocat de la Ligue des droits de l'homme,
aujourd'hui, on est un collectif très large politiquement. Effectivement, on se dit qu'on est à un moment charnière. Il y a une hégémonie d'extrême droite évidente et donc il faut une mobilisation qui soit plus de la société civile. On espère qu'il y aura un sursaut sur les valeurs de la République, de la démocratie, de l'état de droit, c'est-à-dire l'égalité, la fraternité, la liberté.
Et Ariel Imi de promettre rapidement d'autres actions politiques et citoyennes de la part du collectif.
Un reportage signé Alexandra Akoun.
Le plan Un jeune, une solution, une débauche de moyens pour un résultat inégal.
C'est la Cour des comptes qui, dans son rapport annuel, passe au crible ce plan ambitieux du gouvernement pour soutenir l'emploi des jeunes. Près de 10 milliards d'euros au total ont été mis sur la table. Ça a aidé, protégé de nombreux jeunes, évidemment. Mais bonsoir Fabien Cazot.
Bonsoir.
On n'a pas forcément répondu aux besoins de ceux qui en avaient le plus besoin.
Notamment sur les aides à l'apprentissage. Elles ont surtout bénéficié à des jeunes diplômés dont l'insertion sur le marché du travail n'est pas forcément la plus problématique. Bilan, pas d'effet vraiment notable sur le marché de l'emploi, alors que cette mesure est de loin la plus chère du plan Un jeune, une solution, plus de 5 milliards d'euros. C'est plus de la moitié du budget total consacré à ce plan. Les aides à l'embauche directe, deuxième mesure en termes de coûts, n'ont pas eu non plus d'effet sur le volume total de l'emploi et au niveau géographique. Les objectifs fixés sur la garantie jeune ont été systématiquement doublés, alors que la situation est très différente d'une région à l'autre. Le nombre de jeunes demandeurs d'emploi n'avait par exemple augmenté que de 17% en Ile-de-France dans l'année précédant la conception du plan. Les sages pointent un calibrage approximatif sur la base d'hypothèses finalement trop pessimistes faites au début de la crise sanitaire en 2020. Un contexte d'urgence et d'incertitude majeure, répond Matignon, qui explique que le dispositif a dû s'ajuster au fil de l'eau à une situation très évolutive.
Attendez-vous à de grosses perturbations vendredi à la RATP. 8 lignes de métro seront fermées, 6 autres partiellement ouvertes seulement aux heures de pointe. Un mouvement largement suivi donc pour réclamer des hausses de salaire, tout comme celui des aiguilleurs de Nouvelle-Aquitaine à la SNCF. Trafic TER interrompu à partir de 20h30 demain au départ et à l'arrivée de Bordeaux. Pas de TGV Inouï ni de Ouigo vendredi matin. Au tribunal de Bobigny aujourd'hui, Théo Louaka, devenu un symbole de la lutte contre les violences policières après son interpellation violente en 2017 à Aulnay-sous-Bois, était cette fois dans le banc des prévenus. Lui et trois membres de sa famille, jugés pour une escroquerie aux aides à l'emploi. Sophie Constanzer, bonsoir.
Bonsoir Hélène, bonsoir à tous.
La fraude est conséquente, mais ce n'est pas Théo Louaka qui supporte les charges les plus graves.
Oui, c'est lui, Théo, qu'on remarque avec son pull rouge à côté de ses deux grands frères à la carrure imposante. Mais pourtant, il n'a dit que trois phrases à l'audience, car c'est l'aîné Mika Louaka, celui qui dirige et qui répond aux questions. Cet homme très convaincant, capable de vendre du rêve à des jeunes de quartier en soif de foot, en promettant des stages, des essais dans des clubs anglais, pour devenir un jour professionnel. Un jeune raconte avoir payé 1600 euros pour 10 mois de formation, sauf qu'il n'y avait ni entraîneur, ni préparateur physique, ni même gardien de but. Pour aider les jeunes, répète-t-il, Mika Louaka a créé pas moins de 5 associations différentes qui perçoivent toutes des subventions publiques via les emplois d'avenir, sauf que les animateurs de rue, là aussi recrutés, n'ont ni fiche de paye, ni tuteur, ni salaire. L'argent public des aides à l'emploi va directement sur les comptes des membres de la famille Louaka. À la barre, Mika ne s'excuse pas, non. Les gens savaient dans quoi ils s'engageaient, lance-t-il au président du tribunal médusé. Au total, l'organisme national qui paye les aides à l'emploi aurait versé plus de 670 000 euros à l'association principale, Aulnay Evans. Mais le préjudice avoisine le million d'euros.
Compte rendu d'audience signé Sophie Constanzer. Et au Royaume-Uni, que d'embarras ces derniers temps pour la reine après le prince Andrew, accusé d'agression sexuelle. C'est au tour du premier fils d'Elisabeth II de connaître des ennuis judiciaires. Émeline Demain, bonsoir.
Bonsoir,
direct de Londres. Émeline, le prince Charles, à travers sa fondation éducative, est visé par une enquête judiciaire pour des soupçons de favoritisme.
Oui, la police vient d'ouvrir une enquête, mais les soupçons datent de septembre dernier. À l'époque, la presse brosse le portrait d'un milliardaire saoudien, Marfouz Marie Moubarak Ben Marfouz, l'un des principaux donateurs de la fondation du prince de Galles. Selon les révélations, l'homme d'affaires aurait versé des sommes conséquentes à des proches de l'héritier pour que ces derniers poussent Charles à lui décerner la médaille de commandeur de l'Empire britannique, une distinction très prestigieuse que Ben Marfouz a reçue en 2016. La fondation et les représentants du prince rappellent cette après-midi que Charles n'était pas au courant de ces versements, mais refuse de commenter davantage une affaire en cours.
C'est la deuxième révélation judiciaire embarrassante pour la famille royale, Emeline, en moins de 36 heures.
Et oui, on apprenait hier que le prince Andrew, le petit frère de Charles, le deuxième fils de la reine, a versé plus de 10 millions de livres à Virginia Giuffre, l'américaine qui l'accuse d'agression sexuelle. Ça représente à peu près 14 millions d'euros. La somme moins élevée que ce à quoi il aurait pu être condamné devrait être assumée au moins en partie par la reine. Parce qu'Andrew est notoirement pauvre, hein, selon les standards princiers, avec cet accord. Donc le duc d'York évite un procès, il ne sera jamais condamné. Avec culpabilité pour les tabloïds, cet accord permet aussi de mettre un terme à cet épisode avant les fêtes officielles du jubilé de platine de la reine en juin prochain.
Émeline Vin en direct de Londres. Le rêve olympique, oui, mais pas à n'importe quel prix. Plusieurs départements refusent d'accueillir le passage de la flamme en 2024 parce que ça coûte trop cher. Le comité d'organisation de Paris 2024 réclame autour de 150 000 euros. Bonsoir Julien Froment. Une somme jugée exorbitante par certains territoires.
Effectivement, prenons l'exemple de la Touraine, Sylvie Ginet est vice-présidente du conseil départemental en charge des sports. Eh bien, elle a encore du mal à digérer la somme demandée pour accueillir la flamme olympique.
Je suis tombée de ma chaise. Je me suis dit, mais si l'administré lambda apprend qu'on paye 150 000 euros uniquement pour le passage de la flamme, mais c'est juste impossible. Je suis maire d'une petite commune et on en fait des choses avec 150 000 euros.
Pas de torche olympique non plus en Creuse, en Haute-Vienne ou encore dans le Lot-et-Garonne. Michael Aloisio est le porte-parole du comité d'organisation Paris 2024. Il comprend les réticences, mais difficile, selon lui, d'abaisser ce montant.
En gros, on paye une partie de ce que coûte chaque journée du parcours de la flamme. C'est de la signalétique, c'est des relayeurs, c'est des animations. Nous, on gagne absolument rien sur le parcours de la flamme. On leur demande pas d'assumer la totalité du coût. Ils contribuent pour partie au coût, qui est majoritairement absorbé par nos partenaires privés.
Alors, le comité d'organisation consulte pour le moment les départements, consultations qui doivent s'achever ce printemps. Un comité plutôt confiant. Les territoires sont majoritairement prêts à accueillir la flamme, quel qu'en soit le prix. Et à titre de comparaison, si on parle juste d'argent, recevoir une étape du Tour de France cyclisme coûte par exemple entre 60 et 160 000 euros.
Julien Froment, appuyé aux Jeux Olympiques de Pékin aujourd'hui, un quatrième titre en or pour la France et premier pour Clément Noël, le plus rapide à s'extraire des piquets du slalom. Et on aurait pu aussi commencer ce journal par ça, ce petit air de retour à la vie normale. Les pots au boulot, c'est reparti, c'est la nouveauté du dernier protocole sanitaire en entreprise. Le coupé décalé en boîte de nuit, ce sera sans masque si vous voulez à partir de ce soir. Et puis il y avait du pop-corn au ciné cet après-midi, on savoure les petits plaisirs. Hein, mais si, reportage près de Caen, Louis Fontaine.
C'est une bonne séance.
Merci.
Au revoir.
À la caisse, ça faisait bien longtemps que Justine n'avait plus autant vendu de pop-corn. Karine et sa fille ne pouvaient pas passer à côté.
Je pensais encore aujourd'hui qu'on pouvait pas manger de pop-corn et j'ai vu ça et tout de suite j'ai dit à ma fille, on en achète, c'est trop génial, le cinéma sans pop-corn, c'est pas un cinéma quoi.
Dans la file d'attente, Florian est venu voir un film d'action avec ses amis. Plus qu'un moyen de se faire plaisir, c'est une vraie tradition qu'il retrouve enfin.
Le fait de reprendre des confiseries comme ça, c'est vrai que ça donne c'est le petit plus du cinéma, quoi. Le fait d'aller au cinéma et de prendre son pop-corn, c'est un peu plus original.
Pour Paul, juste à côté, les pop-corn, c'est avec modération. Il ne veut pas déranger les autres pendant le film.
Faut pas en abuser, ben c'est sûr, il y en a. C'est un peu embêtant des fois, mais ça reste relativement léger par rapport au son du film et à ce qu'on voit, quoi.
Et il faut dire qu'on commençait à s'habituer à ne plus entendre ce petit bruit. C'est le cas de ce père de famille.
Ça peut me déranger, mais j'accepte. Hein. J'en prends aussi des fois. Ça ne dure pas pendant tout le film.
Mais c'est surtout essentiel pour le fonctionnement du cinéma. Sandrine Marie, la directrice.
Ça fait partie, évidemment, de la viabilité d'un cinéma. Il y a les entrées, mais il y a aussi les à côté.
Et pour le groupe UGC, la vente de pop-corn, boissons et confiseries représente aux alentours de 15% du chiffre d'affaires.
C'était un reportage France Bleu Normandie.
Vive le scrunch scrunch.
C'est pas si anecdotique que ça, évidemment. Et si tout va bien, dans un mois, on enlève le masque à l'intérieur.
Youpi. Merci beaucoup, Hélène Philly. À demain pour nous. Ça continue dans un tout petit instant. Le 18-20 passe en mode téléphone sonne. Avec vos appels, on va parler de la peur de parler en public. Ce soir, on jette un œil sur le ciel avant.
La météo avec Vitacitral TR+, des laboratoires Acepta. Gel réparateur pour les mains abîmées par le froid, les gels hydroalcooliques et les lavages fréquents. En pharmacie et parapharmacie.
Et Sébastien Léas, le vent se renforce sur le nord.
Oui, des rafales à plus de 80 km par heure ont déjà été enregistrées entre la Manche et le Nord-Pas-de-Calais. Ce soir et cette nuit, les rafales seront un cran au-dessus entre les côtes nord de la Bretagne, la Normandie et les Hauts-de-France avec des pointes à plus de 110 km par heure. Vent fort aussi sur les Pyrénées-Orientales et l'Aude cette nuit puisque la tramontane va également souffler de plus en plus fort. Demain, le vent sera encore sensible mais beaucoup moins fort, hormis sur les Alpes et le Var qui auront des rafales avoisinant encore 80 à 100 km par heure. Et puis on n'a pas fini de parler de vent, puisqu'après les effets de Dudley, qui donc cette nuit, le nord-ouest va être concerné par la tempête Eunice qui arrive vendredi dans un contexte de forte marée. Prudence donc sur les côtes dans les prochaines heures.
Et grande douceur.
Oui, l'ambiance va rester très douce dans le sud-est. Les maximales dépasseront les 20 degrés, notamment dans le Var où le mercure grimpera jusqu'à 23-24 degrés. Demain après-midi, il fera 12 degrés à Amiens, Le Havre, Brest et Aurillac, 13 degrés à Mulhouse et Dijon, 14 degrés à Paris et à Nantes, 15 degrés pour Bordeaux, Toulouse et Grenoble, 18 degrés à Calvi et 20 degrés donc à Perpignan, Nîmes et à Toulon. Côté ciel, les nuages seront encore bien étendus sur une large bande entre l'Aquitaine et Auvergne-Rhône-Alpes jusqu'au Jura avec des pluies le matin, quelques averses l'après-midi. Journée nettement plus ensoleillée entre les Hauts-de-France, la région parisienne ainsi qu'autour de la Méditerranée. La Bretagne, les Pays de la Loire, la Normandie et le Poitou-Charentes verront les nuages envahir le ciel à l'approche d'une nouvelle perturbation qui seront d'ailleurs les prémices de la tempête Eunice. Et puis entre le Grand Est et la Bourgogne, les nuages seront prédominants demain, mais quelques éclaircies arriveront quand même à se dessiner.
Sébastien Léas de Météo France, merci beaucoup.